Là, en arrivant, j'ai croisé certains de mes collègues qui sortaient d'une soutenance de thèse de neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Alors, nous avons eu une brève discussion pour savoir quel était le sujet le plus compliqué. Le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement du Liban? Peut-être que Armand est là pour nous donner une solution à cette douloureuse interrogation. Armand, je t'accepte la parole, hélas, pour la dernière fois, puisque c'est ta dernière conférence aujourd'hui. Tadam.
Merci bien, Henri.
Micro.
Je vais donc essayer de répondre aujourd'hui à la question « Le système politique libanais a-t-il un avenir ?» Pour ce faire, je m'attarderai pendant un moment sur le passé de ce système. Si on peut se demander s'il a, oui ou non, un avenir, du moins nous savons qu'il a un passé. Et ce passé nous aidera sans doute, plutôt un bilan rapide de ce passé, nous aidera sans doute à introduire peut-être un brin d'optimisme dans ces exposés qui ont été, somme toute, assez sombres. Bien, mesdames, messieurs, ce qui pouvait encore, en forçant un peu le terme, être appelé consensualisme à la libanaise, a pris au cours des 3 ou 4 dernières années le sens franc d'unanimisme. L'unanimité nous est donc proposée comme règle de fonctionnement du régime politique. Et l'on nous promet que si cette règle n'était pas observée, le régime serait voué à la paralysie. En témoigne ce que, depuis l'automne 2006, on appelle à Beyrouth gouvernement d'union nationale. Le dit gouvernement était présenté aussi bien par le gouvernement en place que par l'opposition comme une formule adaptée aux besoins du pays, le seul point de litige restant la part de portefeuille allouée à chacun des deux camps. Les données de la crise en cours suggèrent qu'unanimement prônée, cette règle d'unanimité est en voie d'être instaurée en axe inamovible du système et en mécanisme permanent de prise de décision. L'improvisation récente par l'initiative arabe d'un troisième bloc de ministres concédé au président de la République ne modifie pas durablement cette perspective. Dépourvue de référence constitutionnelle, cette recette, si elle était adoptée, resterait à la merci des tempêtes politiques. Le président qui ne vote pas en Conseil des ministres en serait en fait fragilisé dans la mesure où il reste confessionnellement marqué. La contestation d'un vote de ses ministres se répercuterait inévitablement sur son autorité. Son aura d'arbitre serait remise en cause dès la première confrontation. En effet, la partie lésée par l'alignement présidentiel sur ses adversaires ne manquera point de rapporter à bon ou à mauvais escient la prise de position du président aux intérêts égoïstes de sa communauté. Or, c'est là un type d'objection que l'évolution des rapports de force intercommunautaires a rendu depuis longtemps fatale à l'unité du front dirigeant. Il risquera donc de replonger le pays dans la dissidence généralisée. Ce que l'initiative arabe proposait, en fait, revient à instaurer informellement un régime quasi-présidentiel, son caractère présidentiel dépendant du nombre des ministres alloués au président, sans munir ce régime de ce qui lui assure sa légitimité et sa stabilité, à savoir l'élection du président au suffrage universel. Car d'emblée, cette dernière procédure exclut le marquage confessionnel ou assimilé des candidats. Cette absurdité constitutionnelle nous renvoie, au bout de ce long détour, à la précédente, l'unanimisme érigé en règle de gouvernement. Il s'agit bien d'une règle de constitution des gouvernements et non seulement d'une règle de leur fonctionnement. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement l'existence d'une majorité et d'une minorité gouvernementale, se manifestant éventuellement lors de prises de décision, ni même seulement la possibilité pour la minorité de faire tomber un gouvernement qu'elle désespère de faire marcher selon ses voeux. Le litige, on le sait, tournait autour de ces questions. Mais que l'on adopte une seule de ces deux formes d'unanimisme ou qu'on se soumette aux deux, nous nous trouverons en présence d'une première pour le régime politique libanais. Que s'est-il donc passé ? Concrètement, l'unanimité implique ici que le gouvernement, de par l'éventail des tendances politico-confessionnelles qu'il embrasse, constitue une image réduite du Parlement ou même de la société politique entière, représentée par toutes ses composantes de quelque importance. Cela revient à exclure, dans sa réalité aussi bien que dans son principe, l'opposition. Toutefois, à y regarder de plus près, on constate que loin d'être exclue, l'opposition a rejoint le gouvernement. Elle y siégera donc, abstraction faite des chances d'entente entre ses représentants et ceux de la majorité. Les options divergentes sur des questions de première importance et d'autres secondaires pourront être plus ou moins dissimulées sous les formules d'une déclaration ministérielle laborieusement concoctée, mais dont les chances d'être prises au sérieux n'en seront que plus maigres. Quoi qu'il en soit, cette aspiration inconditionnelle de l'opposition dans la sphère gouvernementale menacera de valoir au pays une révélation foudroyante, à savoir que le pays n'a plus d'opposition ni de gouvernement. Ce serait là, indépendamment de ce mode d'exécution concrète, le verdict que se serait asséné notre système politique au terme d'un cheminement historique lent et sinueux vers l'autodestruction. La traduction réelle de ce verdict consistera en l'emmiettement du pouvoir d'État sous toutes ses expressions, en la minimalisation de son efficience et en le fractionnement du pays dont les forces politiques continueront à s'arracher les dépouilles. Tel est le coût de production de la prétendue unanimité. La plus-value, elle, peut être ou n'est pas être la guerre civile. En effet, la pleine mise en forme d'une guerre civile suppose réaliser des conditions dont les forces autochtones ne détiennent pas toutes les clés. Peut-être n'en détiennent-elles même pas les plus importantes. Il reste clair néanmoins que cette formule de gouvernement non-gouvernement et d'opposition non-opposition n'est guère la plus appropriée pour donner une cohérence à un espace public où pourrait se développer la citoyenneté en tant qu'elle est rapport à une nation et à un État réalisé ou en voie de l'être. La confusion du gouvernement et de l'opposition et leur écroulement à terme sont donc désormais les deux conséquences prévisibles de l'érection de cette hypothèse unanimiste en principe de la constitution et du fonctionnement du pouvoir politique au Liban. Reste à savoir comment ce pays en est arrivé à prendre une impasse pour une issue. La réponse peut être très courte ou au contraire occuper des volumes. La réponse courte se limiterait à consigner la tendance qui, en dernière instance, a, à partir de la fondation de l'État libanais contemporain, gouverné l'évolution de la société politique de ce pays. Et ceci sous deux aspects. Un, les rapports entre les forces constitutives de cette société et l'élaboration de l'identité nationale. Et deux, les rapports entre ces forces et les communautés confessionnelles du pays. Il s'agira donc de cerner les figures successives de la représentation politique de ces communautés et celle de l'espace demeuré libre pour des forces politiques non confessionnelles. La réponse longue, elle, s'attardera plus ou moins devant les faits singuliers qui ont jalonné cet itinéraire. Elle s'attellera aussi à décrire les tournants successifs qu'il n'a pas manqué de prendre. Nous accepterons ici les risques que comporte l'option située entre ces deux extrêmes. Au départ, le trait qui a caractérisé l'État libanais, la patrie libanaise aussi, que subsume avec l'État le terme d'entité, Kayan, se résume dans la formule qui veut qu'il s'est agi, en 1920 donc, d'un État ayant pour ennemi la moitié de sa population. Ce qui ne veut pas dire que l'autre moitié lui vouait une amitié inconditionnelle. L'amitié avait pour condition fondamentale que cette entité restât une réalisation et un droit de la communauté ou de l'ensemble communautaire en quoi cette deuxième moitié consistait. Les développements de l'histoire contemporaine qui ont affecté le pays, son environnement régional et le monde entier, les crises qui en ont résulté dans le pays et dont on peut aisément citer les dates, ont fait que des mouvements complémentaires se sont esquissés dans les rangs des deux moitiés. En gros, des fractions considérables de la moitié ennemie firent des pas plus ou moins assurés, si on les considère un à un, vers une acceptation de l'entité dont elles percevaient l'apparente pérennité et où elles se mirent à situer leur identité nationale en revendiquant une présence accrue dans ces institutions. Réciproquement, les forces représentatives au pouvoir de la moitié fondatrice se mirent à ménager des accès plus ou moins importants aux annexés, qui, au départ, n'avaient dû leur droit de cité qu'aux ports maritimes dont ils contrôlaient l'entrée ou l'entourage, aux marchés qu'ils représentaient et à la fertilité des régions agricoles qu'ils occupaient. Cette convergence de mouvements toujours prudents mais souvent décisifs, ébauchés des deux côtés, bénéficiait de la complaisance, sinon de l'encouragement, d'une autorité mandataire qui, dans ce domaine, avait souvent le dernier mot. Au lendemain de Meysaloun, une partie des musulmans, toutes confessions confondues, avaient consenti à gérer leurs affaires communautaires dans le cadre des institutions politiques judiciaire et administrative du nouvel État, tout en demeurant fondamentalement opposé au statu quo politique dans le pays et aussi dans les États voisins. Dans le contexte de la révolte syrienne de 1925, les chiites eurent droit au statut de communauté à statut personnel pourvu d'un ifta et de tribunaux shari distincts. Auparavant, le faïsalisme insurrectionnel de certains chiites avait valu à cette communauté une correction assez sévère. La nouvelle reconnaissance voulait couper court aux tentatives des révoltés syriens de s'allier la sympathie des chiites. Sympathie grosse du danger d'ouvrir la voie à partir du Wadi Taïm à l'est du pays, où les insurgés avaient pris pied devant une équipée qui, les complicités chiites aidant, aurait tenté de rejoindre le littoral via le Jabal Amel, coupant ainsi le pays en deux. Les mêmes avances faites par l'autorité mandataire visaient aussi à assurer l'appui chiite au projet de constitution alors en discussion. En 1936, l'événement était la négociation à Paris d'un traité franco-syrien. Les pourparlers furent accompagnés et suivis de troubles graves couvrant plus d'une région libanaise. Ceux-ci se manifestèrent par intermittence jusqu'au lendemain de la signature en novembre du traité entre la France et le Liban. Au bout de cette période d'instabilité, les musulmans du Liban, adeptes de l'unité syrienne, avaient désespéré d'obtenir la remise en cause des frontières libanaises qu'impliquait leur vœu unioniste. Les négociateurs syriens eux-mêmes avaient dû renoncer à cette revendication territoriale que la partie française, en phase avec les principaux représentants des chrétiens libanais, refusait de mettre en discussion. Désormais, les ambitions des unionistes se limiteront à l'obtention de relations syro-libanaises assez serrées pour leur assurer une participation plus équitable à la conduite des affaires libanaises. Le sentiment que la formule libanaise avait jusque-là fonctionné à leur détriment ne devait pas les quitter de sitôt. Les deux traités franco-syriens et franco-libanais n'ont jamais été ratifiés par l'Assemblée nationale française. La ratification du traité syrien resta jusqu'aux veilles de la Deuxième Guerre mondiale un moyen français d'extorquer des concessions supplémentaires aux indépendantistes syriens. L'effondrement de la France en juin 40 et la prééminence acquise à ses dépens par son allié britannique, en Orient arabe comme ailleurs, eurent des répercussions décisives sur le Liban. La Grande-Bretagne assuma le gros de la tâche dans la campagne lancée au printemps 41 afin d'arracher la Syrie et le Liban à la domination vichiste. L'opposition musulmane au régime du mandat français en sortit renforcée à la fois en Syrie et au Liban. En effet, l'influence britannique lui permit de s'insérer dans un vaste réseau régional dont les deux pôles étaient le Caire et Bagdad, qui allait se matérialiser quelques années plus tard en la Ligue des États arabes. Ainsi, un espace de coopération se profila entre cette opposition musulmane et son homologue chrétienne sur la base de l'indépendance du Liban et de son insertion dans l'ensemble régional en gestation. L'opposition chrétienne s'était constituée au cours des années 30, aiguillonnée par la politique mandataire de gel répété de la Constitution et des institutions constitutionnelles, institutions où s'incarnait la prépondérance chrétienne dans le système politique, avait contribué à l'aigreur dans les rangs chrétiens aussi l'avidité monopoliste de sociétés françaises qui portait atteinte aux intérêts du capital et des producteurs libanais. Deux pistes de coopération se sont donc dessinées, la revendication de l'indépendance nationale et l'intégration dans l'espace politico-économique de l'Orient arabe. Les encouragements britanniques favorisaient la consolidation des rapports syro-libanais dont l'aspect économique faisait partie du legs administratif du mandat, alors que l'aspect politique était le fait d'une congruence de forces aguerries par une même résistance aux politiques mandataires. Tablant sur ces deux atouts, les Syriens et les Libanais ont pu mener la bataille de l'indépendance et la gagner. La Nakba palestinienne de 1948 s'est soldée par un affaiblissement considérable du système régional représenté par la Ligue des États arabes. La scène libanaise devait répercuter les affrontements que le monde arabe endura pendant une décennie entière. La puissance britannique, battant en retraite sur tous les fronts internationaux, glissa au Moyen-Orient de sa position de tutrice de l'unité arabe pendant les années de guerre mondiale à une position de défense désespérée, de position que les coups d'État emportaient successivement. En quelques années, la Grande-Bretagne allait perdre sa prise sur les deux pays clés du monde arabe de l'époque, l'Égypte et l'Irak. Sa part d'influence en Syrie connut des hauts et des bas après que les États-Unis eussent soutenu le premier coup d'État syrien qui s'est tourné aussi vers la France. Avec l'égrènement des coups d'État à Damas, la logique de relations syro-libanaises fut profondément transformée. Jusque-là, ces relations avaient bénéficié de la garantie de deux groupes jumeaux dérivés d'une même génération d'hommes politiques, celle qui a gouverné le Liban à partir de 1943 et qui avait occupé le devant de la scène politique syrienne depuis le milieu des années 20. C'est cette génération que déboulonna le premier coup d'État syrien et que les suivants achevèrent après avoir rappelé momentanément au service certaines de ses figures. Dès le début de cette période, Beyrouth devint un fardeau pesant sur la poitrine des putschistes syriens. En effet, leurs adversaires y trouvaient refuge. L'époque où les dirigeants et autres politiques syriens passaient leur temps libre à Beyrouth ou estivaient dans les villages de la montagne libanaise était révolu. Aussi, les piliers sur lesquels reposait l'immunité du régime libanais pendant les premières années d'indépendance se lézardèrent simultanément ou s'écroulèrent. La fuite vers Beyrouth de capitaux arabes chassés par l'instabilité politique de leur pays d'origine, dissimulés sous le couvert d'une certaine prospérité, les difficultés où se débattait un Liban déboussolé. Les sympathies d'hommes politiques musulmans naguère orientés à la Grande-Bretagne furent transférées sur Nasser d'Égypte, l'adversaire numéro un de cette puissance dans le monde arabe. Le mainstream chrétien, lui, opta pour une garantie occidentale de la sécurité du Liban et de son régime. Cette garantie était en fait débattue depuis ou même avant la guerre de Palestine. Dans la déclaration tripartite, la garantie se révélait encore anglo-franco-américaine. avec la doctrine Eisenhower, elle devint purement américaine. Le président de la République libanaise fut le seul chef d'État arabe à se rallier à cette dernière doctrine. Il le fit à un moment où la version syrienne, baasiste surtout, du nationalisme arabe se rabattait sur un idéal d'unité arabe hostile à la souveraineté des États. Souveraineté que la formule de la Ligue, elle, avait réussi à préserver. Incarné dans l'Union syro-égyptienne de 1958, ce nouveau modèle s'installait désormais aux portes du Liban, où les musulmans en majorité et une partie des chrétiens étaient mobilisés par la guerre d'Algérie, la nationalisation du canal de Suez et la guerre qui s'en est suivie, et par l'Union syro-égyptienne elle-même. Aussi, l'insurrection de 1958, bénéficiant de l'appui de la République arabe unie, éclata-t-elle à la face de Kamil Chamoun, alors président de la République libanaise. Elle se justifiait, en plus de la persécution présidentielle de ses chefs lors des législatives de l'année précédente, par le désir de faire reconduire son mandat d'un président connu pour ses complicités avec les adversaires régionaux de Nasser. Chamoun se prévalait en effet de ses appuis afin de pouvoir résister aux raz-de-marée nasseristes qui inondaient le pays de l'intérieur comme de l'extérieur. L'insurrection se solda par un débarquement de Marines américains aux portes de Beyrouth et par un gentleman agreement américano-égyptien, syrien par conséquent en vertu de l'Union, qui porta au fauteuil présidentiel Fouad Chehab, le commandant en chef de l'armée. L'idée chehabiste des relations libano-arabes était en quelque sorte une continuation de la ligne adoptée dans ce domaine par les pères de l'indépendance. En politique intérieure, le nouveau président, comparativement avec ses mêmes pères, fit preuve d'une plus grande détermination, explicable sans doute par l'extraction militaire du personnage, dans l'application d'un important programme de réforme. Ce faisant, il tablait sur l'agreement international subventionné et aussi sur l'appui de forces politiques représentées surtout par des personnalités musulmanes qui, aux côtés du président, occupaient de nouveau des places de choix au pouvoir et sur la scène politique. Fidèle au président sortant, des forces chrétiennes de première importance poursuivirent en revanche une politique d'opposition opiniâtre au nouveau régime. Elle leur valut un surcroît de popularité, tant et si bien qu'elles finirent, pendant la deuxième moitié du mandat présidentiel suivant, par submerger la partie chrétienne du paysage politique. Or, ce mandat de Charles Helou était censé au départ n'être que la continuation du précédent. La défaite de juin 67 avait eu lieu. Elle avait affaibli la garantie nasserienne de la ligne Nahj, de la ligne chehabista. Nasser contribua d'ailleurs personnellement à la mise en péril de la stabilité libanaise en parrainant l'accord libano-palestinien du Caire en 69. La résistance palestinienne qui avait entamé son implantation dans les camps du Liban et à ses frontières représentait une nécessité pour l'Égypte et pour la Syrie au cours de cette période de liquidation des séquelles de l'agression, Izalat Athar al-Udwan, ce qui n'excluait pas, bien au contraire, la volonté de tenir en laisse cette résistance. Ainsi, l'État libanais entamer un processus de décomposition qui menait droit à la guerre civile. Les premières années de celle-ci furent marquées surtout par la division des Libanais en adeptes et en adversaires de la lutte armée palestinienne. Les militants palestiniens y étaient perçus comme étant la force armée principale des musulmans, ou du moins comme étant la source de cette force. L'ambition d'en finir avec la prépondérance chrétienne au pouvoir et dans ses dépendances n'était guère étrangère à l'adoption libanaise du déploiement à travers le pays des formations armées palestiniennes. De plus, des forces politiques libanaises s'engageaient dans la bataille, y pressentant l'occasion d'éliminer des concurrents politiquement supérieurs dans certains cas, qui leur disputaient une zone d'influence communautaire ou régionale. De leur côté, les forces chrétiennes dominantes, qui avaient prouvé via deux législatives leur détermination à conserver la première place au Liban, se tournaient vers Israël pour obtenir du secours. Elles se présentaient en défenseurs non seulement de la prédominance chrétienne au niveau du pouvoir, mais aussi du visage chrétien du Liban. Le temps nous manque pour opérer une récapitulation en règle des ravages nationaux de la longue guerre du Liban. Il suffit de rappeler que l'invasion israélienne, immensement dévastatrice de 82, en a constitué un temps fort, puisqu'elle a imposé le départ de la force de frappe palestinienne. La guerre qui, dès le lendemain de ce départ, tournait au règlement de comptes très sanglant, inter et surtout intra-communautaire, put exhiber sa hideuse face de conflit civil pendant quelques années encore. Le conflit s'avérait à dominante civile désormais, même quand il s'agissait d'affrontements libano-palestiniens. Pourtant, l'effroyable guerre des camps était menée par les milices chiites, surtout pour le compte du parrain syrien. En effet, la dominance très apparente de la composante civile n'excluait guère les visées extérieures, toujours au travail. Nous l'avons écrit il y a longtemps, la guerre du Liban fut une guerre civile à 100% et une guerre internationale à 100% aussi. On se condamne à n'y rien comprendre dès qu'on met ces deux dimensions en situation d'opposition exclusive. Elles étaient plutôt en exercice permanent d'équilibrage, mais ne furent point avares, même dans la très courte durée, en effet de bascule. La guerre prit fin à la faveur d'un accord syro-américain qui devint plus explicite et acquit une plus grande stabilité à partir de la guerre du Golfe en 1991. Dès lors, un premier effet de l'action syrienne fut l'affaiblissement des forces politiques chrétiennes dont les deux principales se retrouvèrent transformées en cibles de la justice pénale et par conséquent mises au banc du jeu des institutions politiques. Les affrontements féroces qui les avaient opposés au lendemain du compromis de Taif facilitèrent grandement l'obtention de ce résultat. Des fils que des deux côtés ont tendé ou relâché à volonté furent maintenus entre le tuteur syrien et les parties chrétiennes qui s'étaient montrées plus ou moins réceptives à la forme de gouvernement mise en place par les soins de Damas. Réceptivité qui devait décliner rapidement à partir de l'an 2000. Le patriarcat maronite assurera directement la gestion de cette réceptivité et celle de ses rétrécissements. Le deuxième aspect de la politique syrienne consista, de connivence avec l'Arabie saoudite, à confier la mission de la reconstruction du Liban et de la réactivation de ses énergies civiles à une figure sunnite montante, Rafiq Hariri. Ce rôle, suivi bien entendu du regard vigilant du tuteur, exigeait néanmoins qu'on laisse aux bénéficiaires une grande marge d'initiative afin qu'il mette à contribution son réseau immense de relations avec les bailleurs de fonds et les États intéressés. Par-delà les polémiques que l'œuvre de Hariri ne manqua pas de susciter, elle lui valut un prestige transcommunautaire, du moins au cours de sa première phase. Car plus tard, c'est-à-dire lorsque le censeur syrien arbora son masque courroucé, la communauté de Hariri serra vigoureusement les rangs autour de son leader. Une part de l'aura transcommunautaire de l'homme put être sauvée néanmoins grâce à d'importants acquis dans le domaine social où il avait investi des ressources personnelles. Un troisième effet de l'action syrienne fit le partage des énergies chiites entre deux tâches. La première consistait en une gestion monopoliste des ressources allouées par l'État à cette communauté, gestion destinée à préserver l'allégeance de la masse chiite pour son leadership politique et pour le parrain syrien de ce dernier. Ce type de gestion ne pouvait se libérer de la logique clientéliste en épousant les contours d'une véritable politique de développement. Il ne s'est donc pas agi d'une participation à pied d'égalité à l'œuvre de reconstruction politico-économique du pays. Plus encore, patrons et clients arrivaient souvent à arrondir leur part en mettant des bâtons dans les roues de la reconstruction nationale. Le leadership druze adoptait souvent aussi cette méthode, qui n'était qu'un vestige vivace parmi d'autres de l'état de guerre. La deuxième tâche, confiée en exclusivité aux chiites, était de poursuivre une guerre de résistance en vue de la libération du sud occupé par les Israéliens. Cette mission eut droit à un parrainage syro-iranien conjoint, les deux puissances régionales se réservant en échange, avant comme après la libération de la zone occupée, le droit à un front maintenu en activité sur la frontière israélienne. Ce front leur était d'autant plus précieux que son exploitation n'engageait pas leur responsabilité directe, l'encaissement des représailles restant l'apanage des Libanais. L'effort de résistance s'est accompagné de l'édification, grâce à l'aide massive et multiforme de l'Iran, de ce qu'on appelle depuis quelques années l'État du Hezbollah. Il s'agit d'un tissu gigantesque de services et d'établissements divers dont les activités assurent à l'organisation une manipulation aux facettes multiples de la vision du monde d'une partie des Libanais. Enfin, un quatrième effet du tutorat syrien fut la réanimation de la dualité druze, dont un partenaire avait réussi à étouffer durablement l'autre pendant les années de guerre. La réanimation avait pour but de procurer au tuteur un moyen de brider, en cas de besoin, la partie musclée. Cette opération n'a eu toutefois qu'un succès très relatif, etc., etc. Quel intérêt cette récapitulation hâtive du parcours contemporain de notre petit pays, ou plutôt de quelques-unes de ses étapes les plus significatives, peut-elle avoir pour un discours sur la quête libanaise de citoyenneté, de nation, d'État? L'intérêt réside dans l'aptitude d'un point de vue historique à affiner et du même coup à relativiser notre perception de l'État où se trouve l'identité nationale des Libanais, ou plutôt leur sentiment de cette identité. Les mutations de ce sentiment ont en effet jalonné les étapes de l'histoire contemporaine de ce pays en même temps que ces étapes les annonçaient. L'hypothèse de la génération spontanée d'une identité commune à la population de l'ancien Liban d'avant 1920 et à celle des régions et villes qui lui furent annexées n'est qu'une absurdité. Pourtant, ce qui précède justifie probablement l'idée que les annexés, et aussi ceux du petit Liban qui couvaient des griefs politiques homogènes aux leurs, sont demeurés ouverts, du moins est-ce vrai des groupes les plus représentatifs d'entre eux, à toute occasion qui se présentait d'améliorer les conditions de leur intégration dans l'entité et de leur participation au jeu de ces institutions. À côté du précédent chiite de 1926 et aussi du fait que bien de notables sunnites avaient dès le départ fait acte de présence dans les institutions du nouvel État, l'année 1936 constitue un grand repère de l'histoire des attitudes des Libanais envers l'État du Liban. En cette année-là, apparut au grand jour une vérité que les étapes suivantes n'ont fait que confirmer. De l'indépendance à 1958 et des veilles de la guerre civile à l'accord de Taïf. À savoir que ceux qui avaient adopté une attitude de refus de l'entité ou du régime, quelque diverses qu'aient été leurs façons d'exprimer ce refus, n'ont jamais sérieusement voulu, si l'on en juge par le comportement de leurs représentants politiques les plus importants, supprimer l'entité et la faire assimiler par une autre. Bien au contraire, leur attachement à cette entité et leur désir d'améliorer la position qu'ils y occupaient ne cessaient d'une décennie à l'autre de s'affermir. Cette amélioration épuisait la finalité des clins d'œil adressés à l'étranger, des appels à intervenir au Liban lancés en direction de partis extérieurs, ou encore de la résignation à reconnaître à tel de ces partis un droit d'ingérence qu'elle s'octroyait déjà et à présenter une influence extérieure excessive comme une nécessité nationale. Loin d'atteindre nécessairement le but visé, les Libanais qui se fourvoyaient dans ce genre de labyrinthe essuyaient souvent de grandes déceptions. Presque toujours en dernière analyse. En effet, la partie extérieure avait toujours des priorités bien siennes et étant la plus forte, faisait passer ses intérêts en premier. Tout compte fait, force nous est de constater que les fondations de l'identité nationale libanaise furent tôt jetées et que sa reconnaissance, du moins implicite, bénéficia bien vite d'une complicité assez générale. Ce qui l'empêcha de devenir maîtresse chez elle, ce sont surtout les polarisations communautaires dues aux quêtes de modification des équilibres sociopolitiques. L'obstacle n'était donc pas le désir de tel groupe de se détacher de l'entité pour être rattaché à une autre. Il est même possible de montrer que l'identité libanaise s'est développée dans la fièvre de lutte qui n'avait pour objet que le droit censé en découler. Elle sortait plus consolidée de chacun des accès de cette fièvre. d'être disputé, l'objet qu'on réduisait en lambeaux était paradoxalement confirmé dans son unité. L'identité libanaise était, ou plutôt devint, une pour l'essentiel. Eh bien, il en est des crises qui rétrécissent le champ de l'action dont pourtant elles mettent en exergue la nécessité. Elles réduisent les ambitions tout en en démontrant la légitimité. Les Libanais se contenteraient volontiers aujourd'hui de voir redémarrer les institutions en place dont ils ont pendant plus de 3 ans touché du doigt l'incompétence et la vulnérabilité. Ils s'estimeraient heureux de voir se reconstituer leur semblant d'état de droit et de constater la réactivation minimale ou boiteuse de lois et règlements régissant approximativement leur vie de tous les jours. Plus que jamais, l'objectif d'une réforme démocratique instituant un état des citoyens semble relever du registre des rêves, le terme même de réforme paraissant emprunté au vocabulaire d'une autre planète avant de se voir trafiquer sans doute par les parties prenantes de la crise. Ces conférences ne se sont pas occupées de l'élection présidentielle. Elles se sont abstenues de proposer une formule du gouvernement dit d'union nationale. Elles ne sont pas parties à la recherche de formulations savamment contradictoires de la prochaine déclaration ministérielle et ont laissé de côté la question de savoir si la grande coalition en gestation réussira effectivement à gouverner le pays. Leurs questionnements se sont voulus autres que les questions de l'actualité immédiate. Nous avons tenté de conjuguer les grandes leçons qu'il nous était possible de tirer de la crise actuelle avec celles que nous paraît suggérer une lecture sans concession de l'histoire contemporaine du Liban et surtout des conditions de constitution et d'exercice du pouvoir d'État dans ce pays. Ne pas prendre en considération la courbe que dessine cette histoire signifierait, selon nous, que la crise n'a pas atteint sa phase de dénouement et reste grosse de remise en cause ravageuse qui irait peut-être à travers confrontations violentes et trêves précaires jusqu'à menacer l'existence même du pays. Croire que l'élection d'un président, semblable en somme à son prédécesseur, la formation d'un gouvernement piégé d'avance par les facteurs mêmes qui ont dicté sa composition, le retour à une loi électorale d'avant-guerre remettrait sur pied l'édifice croulant du système politique, équivaudrait de notre part à joindre un aveuglement délibéré à une impuissance combien coupable. Il n'empêche que l'idée de réforme tendant à la déconfessionnalisation, même relative du régime politique, paraît aujourd'hui hors saison. Qui donc s'engagerait dans pareil processus alors que le communautarisme, au fait de son emprise, tient si fermement la scène et la société politique? Loin d'ignorer la gravité de cette question, nous en avons fait l'axe même de notre analyse. Nous avons toutefois essayé d'établir que cette omnipotence du communautarisme en tant que principe structurant de la société politique le réduisait à l'impuissance en tant que principe informant le pouvoir d'État ou, si l'on préfère, le régime de gouvernement. Cette situation n'est pas inédite. Elle est, entre autres, celle de toutes les démocraties qui, constatant le danger d'ériger les lignes de fracture inamovibles de la société en lignes de partage consacrées de la représentation et partant du pouvoir politique, opte pour la mise à l'index des particularismes issus du fractionnement social de base au niveau de la constitution politique des institutions d'État. À ce niveau, elle refuse de faire de ces particularismes une source ou une limite de droit. Pourtant, elle reste consciente de la nécessité de protéger les plus faibles contre le particularisme des plus forts, d'où le fait que le principe d'égalité des citoyens paraît être en démocratie une garantie pour les plus faibles, tendant à compenser le bannissement de la représentation automatique des groupes de base, c'est-à-dire le système des quotas. En fait, ce système est une forme de discrimination positive, comme nous apprenons à dire aujourd'hui, ou négative. En elle-même discutable, la discrimination positive ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel, souvent provisoire aussi, érigée, comme c'est le cas au Liban et nulle part ailleurs, en règle générale de la constitution des institutions de l'État. Elle s'avère évidemment anti-citoyenne et en définitive antidémocratique. À y regarder de près, elle est susceptible de susciter des objections graves du côté des droits de l'homme. Dire qu'une discrimination généralisée des citoyens n'en est plus une, c'est admettre qu'une norme, quelle qu'elle soit, tient lieu de droit dès qu'elle parvient à s'imposer. Prétendre qu'elle continue à tenir lieu de droit, même si elle ne remplit plus ou encore empêche de remplir les fonctions au nom desquelles elle a été adoptée, c'est parfaire le mariage paradoxal du cynisme et de l'aveuglement. Si paradoxal qu'il soit, ce mariage peut encore se justifier par la peur très réelle du changement. À son tour, cette dernière se nourrit mieux que jamais de la polarisation des communautés, du climat de méfiance enveloppant et des attitudes de repli solidement ancrées. Réalité soigneusement entretenue, mais indéniable, et qui toute explique le manque de popularité de réformes par ailleurs nécessaires. Elles font brandir mécaniquement l'enseigne de l'utopie dès que le mot « réforme » est prononcé. Geste suicidaire s'il en est, car depuis belle lurette, certaines réformes, utopiques ou non, sont devenues littéralement pour le Liban une question de vie ou de mort. Le tout est de savoir à quel coût les Libanais se laisseront persuader de leur nécessité. Force nous est d'espérer que la conviction soit emportée à la faveur d'un moment de détente et de sérénité et non au bout de vagues de destruction, que son coût ne soit donc pas le Liban lui-même. Selon nous, ces réformes ne sont autres pour l'essentiel que celles modérées mais bien effectives prônées par l'accord de Taïf. Leur adoption passe pour les Libanais par une lecture rigoureuse de cet accord, mais leur éviterait de le renégocier. Nous avions proposé, il y a 7 ou 8 ans, un projet d'ordre du jour à l'usage de l'organisme chargé de l'abolition du communautarisme politique, dont nous l'avons déjà rappelé pendant une autre conférence, la formation est due conformément aux termes de la Constitution depuis les élections législatives de 1992, mais est restée un vœu pieux. Voici donc cette liste de propositions de réforme suggérées en guise d'ordre du jour de l'organisme que je viens de mentionner. 1. L'élaboration d'une nouvelle loi sur la nationalité. Les émigrés libanais réunissant certaines conditions, être nés au Liban ou y avoir séjourné pendant un nombre raisonnable d'années, y disposer d'un domicile, etc., et désireux de récupérer leur nationalité libanaise pourront déposer leur dossier. Un réexamen des dossiers jugés par les décrets des années 90 sera effectué afin de vérifier la conformité à la législation en vigueur à l'époque du sort qui leur a été réservé. Mettant fin au scandale, aujourd'hui unique au monde, qui dure depuis 3/4 siècle, on procédera à un recensement général en règle de la population. Sur un autre plan, cette loi doit reconnaître aux femmes libanaises mariées avec de non-libanais le droit de donner leur nationalité à leurs enfants, les deux sexes étant censés jouir de droits égaux relativement à la citoyenneté. 2. La remise sur rail, après l'avoir révisée et complétée, du projet de loi civile facultative sur le statut personnel. Tout citoyen devra jouir, sans préjudice pour ses croyances personnelles en matière de religion, de la liberté d'appartenir légalement à la communauté de droit public que cette loi instituera et dont le mode d'organisation sera convenablement défini. 3. Une nouvelle division administrative du pays, rendant effective l'augmentation récente du nombre de départements et y ajoutant 2 ou 3 autres. On veillera à préserver, dans la mesure du possible, la mixité communautaire et en même temps à donner aux grandes communautés des assises régionales, rendant impraticable la mutation de la déconfessionnalisation en discrimination camouflée de certaines communautés par d'autres. Théoriquement contradictoires, ces deux exigences ne semblent pas très difficiles à raccorder sur le terrain. La proportion de telles communautés ne sera plus dans tel nouveau département ce qu'elle était dans l'ancien, mais le fait de la mixité pourra en règle générale être préservé. 4. Une nouvelle loi électorale, d'où la distribution confessionnelle des sièges sera absente. Les circonscriptions électorales coïncideront avec le nouveau département. La règle proportionnelle, dont il faudra définir les modalités d'application et leurs implications pour l'organisation politique de la société, sera appliquée après qualification au niveau du CASA. L'inscription sur la liste d'électeurs se fera optionnellement sur la base du lieu de domicile effectif. Cette liste devenant distincte du régime d'état civil, le transfert de ce dernier ne sera plus requis. L'égalité des chances d'accès aux médias sera garantie pour tous les candidats. Un plafond sera fixé pour les dépenses électorales et un mécanisme de contrôle sera instauré. Une commission judiciaire de haut niveau sera chargée d'organiser et de superviser les élections. Des ONG spécialisées seront autorisées à surveiller sous tous leurs aspects l'ensemble des opérations électorales. Leurs rapports devront être rendus publics. Le recours actuellement en vigueur au Conseil constitutionnel sera maintenu. Les émigrés libanais ayant conservé leur nationalité seront appelés à exprimer leur vote au consulat libanais le plus proche de leur lieu de domicile. Une révision du nombre de sièges attribuée à chaque circonscription sera effectuée avant chaque échéance électorale en fonction de l'évolution du nombre d'électeurs inscrits. Enfin, une loi déterminera la composition et le mode d'élection du Sénat, dont les sièges seront conformément à l'accord de Taif distribués au prorata des communautés. 5. La déconfessionnalisation des trois présidences et des postes ministériels, le pouvoir exécutif étant maintenu entre les mains du Conseil des ministres. Cette mesure devra être assortie de la réduction du mandat du président de la Chambre et de l'allègement des conditions autorisant le Conseil des ministres à dissoudre la Chambre. On discutera de la possibilité de faire élire le président de la République par les deux chambres réunies en Congrès ou celle de donner au Sénat la latitude de s'opposer à un choix de la Chambre jugé dangereusement sectaire. Conjugué avec une réforme du pouvoir judiciaire qui visera à assurer l'indépendance de celui-ci et comportera nécessairement par conséquent sa déconfessionnalisation, ces mesures constitueront les préliminaires indispensables d'un dépassement de la double définition constitutionnelle et extra-constitutionnelle des pouvoirs. La séparation de ceux-ci ne sera plus alors un vain mot. On devra instituer, dans le cadre du pouvoir judiciaire, une haute autorité qui, se basant sur l'adhésion de la Constitution à la Charte des droits de l'homme, aura pour fonction de réprimer la discrimination des citoyens à partir des critères énumérés par la Charte, à savoir la race, la religion, le sexe, etc. Cette autorité statuera conformément à un corps de texte législatif approprié et disposera des moyens matériels et du personnel judiciaire et administratif nécessaires. 6. Des mesures pour rendre effective la déconfessionnalisation de la fonction publique, la judicature comprise. Il est à prévoir que les chrétiens continuant de jouir d'un avantage comparatif réel, quoique décroissant quant à la qualité de leur formation, le risque pour eux de se voir marginalisés au niveau des postes pourvus par concours sera bien minime. Toutefois, la déconfessionnalisation devra être étendue aux postes de première catégorie. Le pourvoi de ces derniers et d'autres postes de direction se fera à la suite d'appels à candidature. Les dossiers déposés seront accessibles au public par l'intermédiaire des médias et d'ONG spécialisées. Ils devront être jugés en première instance par des jurys spéciaux de haut niveau et indépendants. Le Conseil des ministres devra justifier publiquement de sa dérogation aux recommandations d'un jury. Une préparation sociopolitique axée sur le renforcement du lien national. Au niveau politique, on devra débloquer la réflexion sur la guerre de 75-90 et ses prolongements, cette réflexion étant la voie obligée vers une véritable réconciliation nationale. Une nouvelle loi sur les partis politiques devra être promulguée qui favorisera la formation de partis susceptibles d'échapper aux exclusivismes communautaires. Plus importante encore est la limitation du parasitage de l'État par les organisations politiques cultivant le confessionnalisme, parasitage qu'incarne le clientélisme et la politique de quotas communautaires appliquée aux services publics. Le financement des organisations politiques devra faire l'objet d'un contrôle strict, visant surtout à juguler par le tarissement de ses moyens l'immixtion étrangère dans la structuration et la conduite politique de la société. Dans les ONG menant une activité sociale ou culturelle, la mixité intercommunautaire fera l'objet de mesures gouvernementales d'encouragement et les sources de financement d'un contrôle adéquat. Les mêmes principes de convivialité guideront le développement et la réforme de l'enseignement public, regroupement non ségrégatif des écoles, distribution des enseignants sans égard pour les appartenances communautaires, déghettoisation de l'université libanaise, etc. Il en ira de même de la politique de l'État dans divers autres domaines, habitat, information, culture, etc. Le principe moteur de ces recommandations, c'est l'idée du passage d'un système basé sur les quotes-parts à un autre fondé sur une logique de garantie anti-discrimination des citoyens. L'appartenance confessionnelle ne serait plus un empêchement à l'attribution à un citoyen d'une charge publique, ni une condition de cette attribution. La citoyenneté ferait barrage dans la sphère publique à l'évocation de l'appartenance confessionnelle, à l'appui de la revendication d'un droit ou de sa dénégation, la même règle valant pour les devoirs. Au lieu d'informer le mode de distribution dans cette sphère, l'appartenance confessionnelle y sera frappée d'interdiction de séjour. Elle recevra le même traitement que les considérations de race, de religion, de sexe, etc. en démocratie. Les institutions de l'État et celles de la société devront s'opposer solidairement à cette forme de discrimination, de même qu'aux autres. La justice, les moyens d'expression de l'opinion publique, et en particulier les médias, les institutions de défense des droits civils et politiques devront veiller à la bonne application de ce principe. Le Sénat en sera cependant le garant politique et législatif au terme de la Constitution. Tel est le principe général qui nous paraît devoir servir de fil directeur à la réforme institutionnelle et de réponse à l'échec de la règle communautariste. L'adoption de ce principe ne pouvant avoir de sens que si elle est le fruit du libre choix des Libanais, la question reste de déterminer les conditions dans lesquelles ces derniers se rapprocheraient d'une reconnaissance de sa pertinence. En effet, la question de la réforme est aujourd'hui posée non seulement à un État suant le communautarisme par tous ses pores, mais aussi et surtout à une société politique structurée selon le schéma communautariste et disposant, pour y assujettir la société globale, d'un arsenal imposant de moyens financiers, d'équipements variés, d'institutions multifonctionnelles, de relations internationales, etc. Si donc la nécessité de la réforme est clairement articulée par la crise systémique du modèle communautariste, il reste à savoir quand, comment et sous quelles conditions une volonté authentique de réforme pourra enfin se développer. Je vous remercie de votre attention.
Général de Gaulle aurait dit « vaste programme ».